Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Shabbat Shalom, Rav Eli.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, ou Mevorar. On est à une semaine de Pessah, on sent arriver la fête. Et nous ouvrons un nouveau livre, puisque nous avons laissé le livre Shemot samedi dernier et que nous sommes aujourd'hui dans Vayikra. C'est le troisième livre de la Torah. Et alors, Vayikra, vous y avez remarqué plein de choses curieuses, on va dire. Alors, on va en citer quelques-unes et on va écouter vos explications. Vayikra, et il appela, Dieu appelle Moïse. Bon, on n'a pas vu souvent ça. En général, Vayomer, bon, il y a des formules comme ça dans la Torah auquel on est habitué, on passe du singulier au pluriel. Enfin, toute une série comme ça de phrases qui pourraient sembler, si on peut parler comme ça, mais on pourrait dire mal écrites, avec des erreurs de style. Et bien sûr, on sait qu'avec les secrets de la Torah, il n'y a rien de mal écrit, il y a une volonté de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire avec toutes ces anomalies que vous avez notées ?
Exact. Alors, anomalies, c'est vrai que ce ne sont pas des anomalies, mais pour quelqu'un qui ferait une analyse classique comme un texte, il dirait « mais c'est bizarre, pourquoi tel mot ?» Alors, ne serait-ce que dans le premier verset, le terme qui est utilisé, c'est « Dieu appelle Moshe, il lui parle, il lui dit « Adam, un individu qui approchera parmi vous, qui voudra amener une offrande, tacrivez-vous, vous amènerez. » Donc, il commence au singulier, ça continue au pluriel. Après, il est marqué Adam, pourquoi pas marqué Ish, un individu. C'est le terme généralement plus utilisé par la Torah, Vaikra el Moshe. Dieu appelle Moshe, mais pourquoi il a besoin de l'appeler ? Il y a pas mal de choses quand même qui sont très interpellantes. Et au fond, on va commencer d'abord à les analyser, si vous le voulez bien, au fur et à mesure. Tout d'abord, ce Vaikra, cet appel, c'est un appel d'amour. Nos maîtres disent qu'en effet, il l'appelle. Et une fois qu'il l'a appelé, à ce moment-là, seulement il lui parle, parce que appeler, c'est montrer le désir que l'on a de l'autre, c'est montrer qu'on a envie d'une relation de proximité, qu'il y a une relation il y a un lien, il y a des choses qui existent, et après seulement on exprime notre parole. Et il y a ici un enseignement extrêmement important pour celui qui va transmettre, c'est-à-dire d'abord quel est ton lien avec la personne avec qui tu transmets. Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'apprécie, est-ce que c'est quelqu'un à qui tu as envie de donner, à qui tu as envie de partager? Et puis après seulement, on exprime les mots et on dit des paroles. Vous savez que beaucoup ont cette coutume, qui n'est pas juste qu'une coutume, c'est une tradition solidement ancrée, c'est que l'on commence à enseigner aux petits-enfants, lorsqu'ils savent lire, on commence par leur enseigner Vayikra, c'est-à-dire on commence à leur enseigner ce troisième livre de la Torah, dans lequel on parle des korbanot, de choses qui sont très curieuses pour des enfants à cet âge-là, des offrandes, des animaux et tout. Certains ne font que le premier verset, mais souvent, on fait plus que le premier verset. On dit pourquoi ? Parce que l'enfant est dans un état de pureté, qu'il s'occupe de choses qui sont pures. Mais Vayikra, donc, c'est ce livre par lequel on commence. Et on nous dit, quand tu transmets, quand tu enseignes, Vayikra, appelle l'autre, montre-lui que tu as de l'intérêt pour lui, montre-lui qu'il est important pour toi. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis après, Adam, un homme. Mais Adam fait référence, disent nos maîtres, Adam Arishon, au premier humain, au premier être humain. Et regardez ce que les commentateurs disent. On te dit que c'est Adam, un homme. Ça te renvoie au premier être humain sur la terre. Et pour te dire la chose suivante, de la même manière que Adam n'a pas pu amener une offrande quelconque à partir de quelque chose de volé, parce que tout lui appartenait, parce qu'il n'y avait personne de qui voler, et bien toi aussi, n'amène pas quelque chose qui provient du vol. C'est très curieux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça, de ce terme de Adam ? La Torah, par ailleurs, nous dit bien qu'on ne peut pas imaginer amener une offrande ou accomplir une mitzvah en volant. On apprend ça, entre autres, des lois de Soukhot. On ne peut pas voler un loulav et puis faire la bénédiction dessus. Seulement, il y a ici quelque chose d'un peu plus profond. Adam qui akriv mikem. Sache qu'au fond, Adam n'avait pas ce désir de s'approprier quelque chose qui ne lui appartenait pas, parce que tout simplement, il s'intéressait à ce qu'il avait et cherchait à faire ce qu'il devait faire. Eh bien, de la même manière, toi aussi, quand tu vas amener cette offrande, le but de cette offrande, c'est de créer un lien avec le Créateur. Eh bien, le lien, tu dois le créer d'abord avec ce que tu es, avec ce que tu as. Ça, c'est, entre autres, une des explications de ce terme de Adam. Et puis après, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter un tout petit peu plus, ce passage du singulier au pluriel. Lorsqu'un individu amènera, ils amèneront. C'est comme ça que dit le verset. Et passage du singulier au pluriel, pourquoi ? De là, on apprend quelque chose de fondamental. C'est que mon acte, il a un impact au pluriel. Il a un impact sur les autres. Lorsque tu amènes ton offrande, c'est-à-dire lorsque tu as décidé de renoncer à quelque chose qui t'appartenait pour pouvoir te rapprocher de Dieu, c'est-à-dire que tu as fait ce travail d'être un peu moins auto-centré, un peu moins tourné vers toi-même, eh bien, tu as l'impression que ce que tu as fait, au fond, c'est bien, mais quel impact ça peut avoir sur le monde ? Ok, d'accord, j'ai fait un effort, j'ai essayé d'être un peu moins tourné vers moi-même, de sacrifier quelque chose qui m'appartient pour pouvoir me retrouver plus proche de l'autre, mais je suis content de moi. Mais au fond, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, la Torah te dit non, t'accris-vous. Sache qu'en effet, au moment où tu l'as fait, c'est quelque chose qui agit au niveau du collectif. Ça veut dire que ce que tu crois être quelque chose de banal à ton niveau, parce que ça ne te concerne que toi-même, va avoir un impact et une influence qui va bien au-delà de toi-même. Et évidemment, si c'est valable dans le sens positif, ça peut l'être aussi dans le sens négatif. Ça veut dire que ce que tu crois être, cet acte qui ne te concerne que toi et qui n'est peut-être pas resplendissant et reluisant, eh bien, sache que lui aussi, il a un impact au niveau de l'univers et c'est peut-être ce qui va te donner la force de pouvoir justement te battre contre toi-même parce que tu prends conscience de l'importance de ce que représentent tes actes à un échelon qui va bien au-delà de toi-même. Vous savez, cette idée-là, on la retrouve à travers cette histoire très très connue de l'homme sur le bateau. On est à l'époque des bateaux en bois et puis chacun paye sa place, évidemment, pour pouvoir passer quelques jours en mer pour rejoindre généralement une ville. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien qu'au fond de la cale, il y a quelqu'un qui consciencieusement a pris son couteau et commence à faire un trou dans la coque. Et quelqu'un se tourne vers cette personne et lui dit « Mais que fais-tu ?» Il lui dit « Je m'ennuie, alors je fais un trou. » Et l'autre lui dit « Oui, mais tu réalises qu'il y a la mer en dessous, que c'est un peu compliqué ton histoire ?» Et l'autre lui dit « C'est pas ton problème. Cette place, je l'ai achetée, hein, je l'ai payée, hein, je l'ai louée. Hein. Eh ben, je fais ce que je veux. » Et l'autre de lui dire, et l'histoire est connue évidemment, il lui dit « Non, non, tu fais pas ce que tu veux. » Parce qu'on est tous dans un bateau et si à ta place tu fais un trou, eh bien quand l'eau va se répandre, elle va tous nous mettre en danger. Eh bien, il en est de même. T'accris-vous, vous amènerez, c'est-à-dire, au début, c'est un singulier, mais en vérité, ça concerne le pluriel. Mais je crois que c'est peut-être avant tout dans cette dimension positive qu'il faut voir cela. C'est-à-dire, savoir que nous possédons cette possibilité de rendre le monde meilleur, de rendre l'univers dans lequel nous nous trouvons différent de ce qu'il était à travers cet acte du Corban, à travers le fait que nous sachions, et c'est ça peut-être une des leçons fondamentales de l'univers du Corban. Le Corban, c'est Karov, ça vient de la racine proche. Comment je me rapproche de l'autre ? Comment je me rapproche de Dieu ? Eh bien, en prenant quelque chose qui m'appartient et en y renonçant. Être capable de mettre en place cela à l'intérieur de sa vie est quelque chose qui crée un état d'esprit dans les univers dans lesquels on se trouve. Et nous pensons que nous n'avons pas fait quelque chose, parce que tout simplement, ça ne s'applique qu'à nous-mêmes. En vérité, te dit la Torah, au tout début de Vayikra, qui est ce livre central, te dit, non, sache qu'en vérité, ton acte, il a une portée qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et ça, c'est quelque chose dont tu dois avoir conscience. Ah, tu vas me dire, mais ça va, c'est pas grand-chose. Eh bien, je rappelle cet enseignement, et je conclue là-dessus, que les Kohanim, les prêtres, eh bien, étaient multitâches. Et on sait que les prêtres devaient, par exemple, changer d'habit si à un moment, ils allaient s'occuper de ramasser les cendres qui étaient sur le misbère, sur l'autel, et les jeter. Et de même, de dire, mais pourquoi tu n'affectes pas juste un préposé aux cendres et ça s'arrête là ? Et parmi les explications, on nous dit non. Parce que celui qui a fait, s'est occupé par exemple de la menorah, du candélabre en or, eh bien doit savoir que lorsqu'il va s'occuper de choses qui lui semblent être banales, comme récupérer des cendres, eh bien ça aussi, c'est un acte qui a énormément de valeur. Chaque chose que tu vas faire dans un cadre dans lequel le but et la finalité, c'est de remplir ta mission dans le monde, a une valeur qui vient bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et c'est peut-être à cela que la Torah nous invite à réfléchir, conscience de l'impact, de la portée de nos actes, conscience qu'en vérité, nous avons une responsabilité par rapport au monde, et à partir de cela, évidemment, la vivre et l'assumer pleinement et de la plus belle manière qui soit.
Eh bien, Rav Elie Lemel, on va réfléchir, puisque vous nous y invitez, on va même méditer ce que vous dites. Je crois même d'ailleurs que la soirée de Pessah, on va essayer vraiment de revenir sur tout ça. Et je vous remercie pour ces belles paroles ce soir encore. Shabbat Shalom, Rav Elie Lemel.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom Aleichem, Shabbat Shalom à tout le monde.
Shabbat Shalom, on continue notre réflexion sur Vaïkra. Et vous voudriez vous essayer de réfléchir un peu sur la notion de libération et pourquoi c'est lié au Korban. Et on peut même aller encore plus loin. Et pourquoi c'est lié au Korban Pessah. Alors expliquez-nous comment on se libère, Rav Mordechai Biton.
Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que la paracha de cette semaine, la section hebdomadaire de cette semaine de Vaïkra, donc porte essentiellement, elle inaugure le livre de Vaïkra, le Lévitique en français, dans lequel on va s'intéresser, entre autres au départ, au sacrifice. Maintenant, il faut savoir que l'histoire de la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte, elle est conditionnée par l'observance d'un sacrifice qui s'appelle donc le sacrifice de Pessah. Or, je vous fais noter qu'il n'y a que deux mitzvot dans la Torah, dont la non-observance, deux mitzvot positives dans la Torah, dont la non-observance est sanctionnée par le karet, le retranchement. Le premier, c'est la brit mila, la circoncision, et le deuxième, c'était le sacrifice de Pessah. Toute personne qui, à l'époque du Beit Hamikdash, avait la possibilité de faire le sacrifice de Pessah et n'observait pas cette mitzvah, que ce soit à Pessah ou un mois plus tard à Pessah Sheni, donc la session de rattrapage, on dirait en français, eh bien cette personne était retranchée du peuple juif. Pourquoi ? Parce que le sacrifice de Pessah a été fait en Égypte à un moment où les Juifs étaient encore officiellement esclaves, on dirait politiquement esclaves et militairement esclaves, mais ils étaient spirituellement libérés. Et ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Le peuple juif s'est libéré de son esclavage alors qu'il était encore dans une condition politique d'esclavage. C'est-à-dire à un moment où les Égyptiens auraient pu s'abattre sur nous et nous tuer, ils nous dominaient encore, on va dire politiquement, du point de vue policier, ils avaient la possibilité de nous atteindre physiquement. Nous nous sommes libérés spirituellement en faisant un pied de nez à l'idolâtrie égyptienne, en sacrifiant le dieu des Égyptiens au nez et à la barbe des Égyptiens. Il y a donc ici un point qui est fondamental, c'est que la véritable libération d'Égypte qui est racontée dans la section hebdomadaire de Bo, où là les Bnei Israël vont sortir, elle se fait d'abord sur le fait que les Bnei Israël sacrifient la divinité égyptienne au nez et à la barbe des Égyptiens. Il y a donc un point ici qui est fondamental, c'est que le sacrifice, c'est en fait la preuve de la liberté du juif. Le premier sacrifice que les Juifs ont fait a été la preuve de la liberté des Juifs. Et si on regarde un peu plus en avant dans l'histoire des fondateurs du peuple juif ou des fondateurs de l'humanité, on voit que les sacrifices sont ou une réussite ou un échec. Par exemple, Caïn a raté son sacrifice, tandis qu'Evel a réussi le sien. Caïn ayant loupé son sacrifice, il a été repoussé par Hachem et il n'a pas pu se libérer de l'emprise des forces du mal qu'il avait sur lui, comme la jalousie ou la colère, etc. Noé, lorsqu'il sort de l'arche de Noé, va faire un sacrifice, mais il va tenter de renouer avec le vin. Le vin, la vigne, c'était la possibilité d'utiliser un ustensile qui sert pour les sacrifices. Or, Noé va se tromper, et Vayachel Noé, il va devenir un être chouline, il va devenir un être profane au lieu d'être un être saint. Plus loin, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on connaît l'histoire de la ligature d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak, qui est un acte fondateur de la Emouna, de la foi et en même temps du peuple juif, d'accord, qui est un non-sacrifice, c'est une ligature sur un autel de sacrifice, qui marque l'identité du peuple juif. Nous sommes, nous, les enfants d'Abraham et Yitzhak, parce que Abraham et Yitzhak ont sacrifié, ont pratiqué une ligature, une cérémonie sacrificielle, mais qui a marqué leur attachement à Hachem et l'attachement d'Hachem à Abraham et à Yitzhak. Alors, pour revenir maintenant sur le sacrifice de Pessah, c'est la même chose. Pour sortir d'Égypte, il fallait être capable de se faire la Brit Mila, effectivement, et il fallait être capable également de faire le sacrifice de Pessah. Et alors maintenant, si on va plus loin dans l'histoire, on va vers Parashat Vayikra, quand est-ce que les Bnei Israël donc, vont commencer, recommencer à offrir un sacrifice? Eh bien, ça va être au moment où le Mishkan est construit, lorsque le tabernacle est construit. Ben alors, ce tabernacle, il intervient après quoi? Il intervient après un acte d'idolâtrie, qui est celui donc, du Egel Azav, du veau d'or, où là, les Bnei Israël vont finalement, d'une manière très directe, montrer qu'ils ont encore un bout de chemin à parcourir pour se libérer de l'emprise de l'idolâtrie égyptienne. Et en fait, le Mishkan, c'est finalement la fin d'un épisode qui commence avec le sacrifice de Pessah, qui se poursuit avec le raté du Egel Azav du veau d'or, qui est en fait un raté idolâtre, et qui se termine avec un happy end, en quelque sorte, une heureuse fin, dans laquelle les Bnei Israël renouent avec leur identité profonde, qui est le Korban. C'est-à-dire le Korban qui vient du mot Karov, proche. Dans le Mishkan, dans le temple portatif du désert, les Bnei Israël faisaient l'expérience de la proximité avec Hachem, mais plus que cela, de l'intimité de la relation avec Hachem. Et là, il y a un point qui est un point spécifiquement Israël, si je puis dire, qui est le point de l'identité d'Israël. C'est que la proximité intellectuelle ou émotionnelle avec l'être divin, elle est une particularité d'Israël, mais elle peut être partagée avec les nations du monde. Par contre, l'intimité dans le Beit HaMikdash et ce qu'elle permet, ça c'est une autre affaire. Parce que le Korban, Karov, sacrifice, proximité, ce qui permet, c'est finalement l'intimité qui ne s'éteindra jamais entre Am Israël et son peuple. Il y a entre le peuple juif et Hachem quelque chose qui ne peut pas s'éteindre et qui s'incarne dans le Beit HaMikdash. D'ailleurs, lorsque Hachem va annoncer à Avraham Avinu que ses descendants pourront faire le sacrifice, Avraham Avinu va dire « c'est très bien tant qu'il y aura le Beit HaMikdash, mais le jour où il n'y a pas le Beit HaMikdash, qu'est-ce qu'ils feront ?» Hachem lui répond « cette intimité continuera parce qu'ils vont lire les textes des Korbanotes, les textes dont des sacrifices, avant la prière du matin. » D'où leur importance d'ailleurs, qui n'est pas qu'une importance relative, c'est une importance absolue. Il faut lire les textes des Korbanotes avant la tfila, parce que ces textes des Korbanotes, eh bien, ces textes des sacrifices, c'est une manière en quelque sorte d'être encore dans cette intimité, d'exprimer cette intimité avec Hachem. D'où l'on voit cette idée que la libération absolue, radicale et totale du juif, elle s'organise autour du Korban, autour du sacrifice, autour du Beit HaMikdash, autour du temple, et autour du Mishkan, et autour de l'étude de tout ce qui touche au sacrifice. Faut-il rappeler ici que le Rav de Brisk, et à l'Eshiva de Brisk, on mettait un point d'honneur, on met toujours un point d'honneur à étudier Kochim, c'est-à-dire toute la partie qui traite des sacrifices. Faut-il rappeler également que finalement Hachem n'a dans son monde que Abisraël, c'est son peuple, c'est le peuple avec lequel il y a une intimité absolue, et que finalement, comme nous le disons dans la Tfila, Veishé Israël, Veutfilatam, et on demande à Kadosh Baruch Hu de se souvenir des Ishé Israël, des sacrifices que Israël faisait, mais Ishé, ça fait référence aussi à Anché Israël, les hommes d'Israël, qui en quelque sorte sont dans la proximité avec Hachem, et qui sont, par leur étude de la Torah, par leur mitzvot, par leur tzitzkout, sont comme en quelque sorte un sacrifice vivant entre les mains d'Israël. Il faut rappeler également que quand on mange, notre table est considérée comme un misbéach, elle est considérée comme un autel de sacrifice. Faut-il rappeler que dans le Shalom Bayit, on dit que la femme est comme le Kohen Gadol, c'est elle qui prépare en quelque sorte, qui va être amenée sur le misbéach, et que lorsqu'on mange à la table de Shabbat, à la table de fête, eh bien, de la même manière que sur le temple, la bracha venait au peuple juif et à l'humanité par le misbéach, qui était la haute table, on l'appelait la haute table, et qui déversait sa bracha dans le peuple juif, de la même manière, la bracha vient par la manière dont nous nous comportons à table, la cacheroute de nos aliments, les divrei Torah que nous disons, et la manière dont nous mangeons également. Donc il y a un lien intrinsèque, une intimité, c'est la véritable libération du peuple juif, de comprendre que tout passe par le Mishkan et par le Beit HaMikdash, c'est la raison pour laquelle on prie pour la reconstruction du Beit HaMikdash, c'est-à-dire pour la réalisation à nouveau de cette intimité entre nous et le Créateur. Voilà. Alors, à toutes et à tous, bonne préparation de Pessah. Shabbat Shalom et Shavua Tov pour ceux qui nous écouteront après. Puis la semaine prochaine, on parlera un petit peu du Seder et de la fête de Pessah. Et
oui, spécial Pessah la semaine prochaine, obligé.
Absolument.
Rav Mordechai Habitant, merci. Je vous souhaite un grand et beau Shabbat avec une belle table et une kohénette qui vous amènera plein de brachot à la maison. Amen. Merci à vous.
Au temps pour nous tous.
Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Mariacha Drey. Bonsoir Mariacha, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom Bernard.
Mariacha, on continue notre réflexion. On est toujours sur Vaïkra, mais vous voulez souligner ce soir que c'est le livre par lequel commencent les tout-petits à apprendre la Torah, c'est pas Bereshit. Mais la tradition dit que c'est sur ces petits-enfants qui étudient Vaïkra que repose toute la planète. Alors, c'est il faut pas. Penser qu'ils ont fait quelque chose d'énorme. Hein, pourquoi ?
Voilà, c'est exactement ça. Ça nous interpelle parce que, alors d'abord, il y a une Gemara bien connue dans le traité Shabbat qui dit que le monde dépend du souffle, dit le texte, du souffle qui sort de la bouche d'un enfant qui étudie la Torah. Donc, on comprend bien qu'il y a une importance dans la transmission de l'étude de la Torah, d'autant que nous sommes à la veille de Pessah, et la mitzvah essentielle de Pessah, c'est Vehigata Lebincha, tu raconteras à ton enfant, donc cette expérience transgénérationnelle de lui dire tu es le maillon de cette chaîne. Mais en fait, en réalité, le texte va plus loin que ça. C'est pas seulement le souffle qui sort de la bouche des enfants. On a un commentateur, un élève du Harizal qui s'appelle l'auteur du Sifte Cohen, qui reprend la particularité du début de Vaïkra, du premier mot dans le livre de Vaïkra. On se souvient qu'il y a un tout petit aleph. Le aleph du mot Vaïkra est minuscule, et donc l'auteur du Sifte Cohen dit que ce petit aleph de Vaïkra est une allusion aux petits enfants qui démarre l'étude, donc le Aleph Bet, par Vaïkra, et il continue en disant que le monde ne se maintient que par le mérite des korbanot, qu'on va tout de suite expliquer, et aujourd'hui nous n'avons plus de korbanot car plus de temple, et du coup, le monde ne tient que grâce au souffle qui sort de la bouche d'un enfant qui étudie Vaïkra, donc la Torah des korbanot. Alors qu'est-ce que c'est que cette Torah des korbanot, et pourquoi le monde dépend de ces enfants-là ? La Torah des Korbanot, je ne veux pas la traduire par la Torah des sacrifices, c'est un terme, on va dire, plutôt à connotation chrétienne. On ne sacrifie pas, on ne se sacrifie pas, c'est pas de cela qu'il s'agit. Le Korban vient du mot karov, qui veut dire proche. Le Korban, c'est l'expression d'un désir de proximité avec le divin, tout simplement. C'est-à-dire que le premier pasouk de Vaïkra dit « Adam ki yakriv miken Korban » Takrivou et Korbanchem, quatre fois le mot karov qui revient. Comme si la Torah insistait et dit, si un homme veut se rapprocher d'Hachem par un rapprochement, un korban, eh bien qu'il rapproche son korban. C'est-à-dire, il y a une insistance très lourde, comme pour dire, à un moment, Adam, c'est-à-dire un descendant d'Adam Harishon, donc un descendant d'un être qui est capable de fauter, et donc d'abîmer quelque chose, eh bien, il peut toujours réparer, et ce n'est pas la peine d'attendre Kippour. On peut réparer à travers le korban, à travers ce désir de proximité. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus le korban sur lequel on pose les mains. Là, les mains étaient posées dessus, signifiant la problématique autour du monde des actions. Il y avait un vidouille qui était fait. Et ça, c'est en parallèle avec la problématique de la parole, tout ce que l'on peut abîmer par notre parole. Et puis, il y a bien sûr aussi les entrailles qui sont brûlées, les entrailles de la bête, comme pour renvoyer à l'idée de notre intériorité, du monde de nos pensées. Donc notre pensée, nos paroles, nos actions, tout ça peut être rédimé, peut être arrangé par l'intermédiaire du korban qui est approché par ce désir de proximité. Et donc en effet, aujourd'hui, il n'y a plus de korban, mais nous savons que même s'il n'y a pas de korban, le fait d'étudier les korbanot, c'est considéré exactement comme si le korban avait été apporté. Alors, on ne comprend pas davantage pour l'instant pourquoi le monde dépend de ces petits-enfants qui commencent par Vayikra. Alors, quand je dis les petits-enfants, en général, c'est à l'âge de 5-6 ans, quand ils ont terminé de déchiffrer toutes les lettres de l'alphabet et les mots, la première fois qu'on leur fait ouvrir un livre de Torah, eh bien, on fait attention en général à ce qu'ils démarrent. Alors, le premier lien avec la Torah, c'est le lien de Vayikra. Alors, pour comprendre pourquoi le monde dépend de ces enfants-là, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, dit le Midrash, Yavou Théorim, que viennent ceux qui sont purs, purs c'est les enfants qui n'ont pas fauté, et qu'ils se préoccupent de Tahara, donc du Korban, de tout ce qui relève de la sainteté, de la Kedusha, et donc c'est ainsi que le monde va pouvoir se maintenir. Alors, pourquoi particulièrement ces enfants qui sont purs? On comprend bien que le monde ne peut se maintenir si on ne fait que l'abîmer. Or, nous tous descendants d'Adam, bien forcément, que ce soit par la pensée, par la parole ou par l'action, à un moment, on est face à cette réalité qu'on a pu abîmer des choses, des relations, de l'authenticité. Voilà, on a pu abîmer et effectivement, il va falloir réparer. Alors, très bien, pas de problème, il suffit d'étudier les corbanotes. Qu'un adulte vienne et étudie les corbanotes, ça sera tout comme s'il avait réparé ce qui a été abîmé. Or, ce n'est pas cela que dit le Midrash ici. Le Midrash dit non, non, il faut que les enfants viennent l'étudier. Alors, pour comprendre ça, je vais vous citer ce que cite le Shvili Pinchas, Rav Pinchas Friedman. C'est un texte qui m'a bouleversé, un Midrash que je ne connaissais pas sur Shir HaShirim, qui m'a bouleversé et qui explique parfaitement bien l'enjeu. Il nous raconte qu'au nom de Rabbi Meir, qu'au moment où nous étions tous au Sinaï, Dieu s'apprête à nous donner la Torah. Et là, il y a une petite hésitation. L'hésitation provient du fait que Dieu dit « mais je vais leur donner mon plus grand trésor, le mode d'emploi du monde, ce qui peut les aider à s'accomplir et à se réaliser au maximum. Mais qui me dit qu'ils seront à la hauteur? Qui me dit qu'ils continueront encore et encore après des centaines, après des milliers d'années, et je vais même dire après des milliers d'années d'exil ?» Qui me dit qu'ils accompliront la Torah? Et du coup, Dieu demande au peuple d'Israël des garants, une garantie que la Torah continuera à être pratiquée, à être étudiée. Alors, premier essai, les Bnei Israël disent, ben, parfait, on descend d'Abraham, Isaac et Jacob, illustres patriarches, ils seront nos garants. Et Dieu répond, non recevable. Je n'accepte pas cette garantie. Abraham, à tel moment, il a dit « Comment saurais-je que je vais hériter ?» Donc, il y a eu un petit manque d'émouna, je n'accepte pas. Yitzhak, pour telle autre raison, Yaakov, pour telle autre raison, je n'accepte pas vos garants, trouvez-moi des garants plus solides. Et là, extraordinaire, le Midrash dit qu'à ce moment-là, Amrou, ils ont dit « Haré banenu orvimotanu » Alors, nos enfants seront nos garants. Et la réponse de Dieu, c'est « Havadai arevim tovim » comme ce sont de bons garants. D'accord, je vous donne la Torah. Comme si ici le texte disait que les Bnei Israël, au pied du Sinaï, étaient convaincus qu'en 2021, malgré 2000 ans d'exil, eh bien, les enfants seront encore plus aptes à cette Torah, encore plus à la hauteur de cette Torah, que leurs illustres ancêtres. Comme si on était certain et convaincu que nos enfants sont nos meilleurs garants et que nos enfants, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quel que soit le chaos du monde, ils seront toujours à la hauteur de cette Torah. Alors, en effet, c'est étrange. Comment comprendre cela? Alors, le Rav Pinchas Friedman dit ici que, d'une part, ils sont les garants parce que quand un adulte fait une erreur et abîme quelque chose, eh bien, Dieu fait ce qui a été dit lors du contrat, il va voir le garant, il va voir l'enfant, et l'enfant s'avère être en train d'étudier les corbanotes, il est donc en train de réparer, alors que lui n'a jamais fauté, il n'a rien à réparer cet enfant, eh bien, il est en train de réparer finalement quelque chose qui s'est passé avant lui, alors une génération, deux, cinq, dix, il est en train de montrer que la Torah est toujours là, elle est présente, qu'elle a été transmise et que ce qui s'est passé avant lui, il est en mesure de le réparer. Et il me semble, à la lecture de ce texte fabuleux du Rav Pinchas Friedman, que finalement, la réponse que l'on donne, vous savez, le soir du Seder, il y a quatre enfants, et on parle de l'enfant qui est le rachat, le mécréant. Et on est toujours un peu mal à l'aise de se dire, bon, est-ce qu'à notre table, il y a un rachat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à ce point pas concerné par la Torah? Et en réalité, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de rachat. Il est rachat à nos yeux, à nous. Nous, on est là à donner des catégories aux uns et aux autres. Ils pratiquent, ils ne pratiquent pas, tradit, tradit plus. On va commencer à donner des catégories. Et en réalité, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y a juste un peuple et une conviction que la transmission se passe et que nos enfants sont toujours, toujours, toujours à la hauteur. Et finalement, je me suis faite cette remarque que, vous savez, quand le Baal HaTanya écrit dans son Tanya le fameux chapitre 32, où il parle de l'amour de l'autre et de la nécessité d'amener tous les Juifs vers la connaissance de la Torah, je me suis interrogée, je me dis, mais finalement, à qui il parle? Il y a 3 siècles, tous les Juifs étaient dans le shtetl. Tout le monde pratiquait, même le Juif le plus simple, entre guillemets, avait ses quelques heures d'études par jour. À qui parlait le Admour HaZaken? Et en réalité, je crois vraiment qu'il nous parlait à nous, parce que, en fait, nos enfants grandissent aujourd'hui dans un monde qui n'est pas simple, dans un monde où ils ont accès à énormément, énormément de contenu, on va dire, qui n'est pas là, qui ne va pas les aider, forcément, au contraire, qui va peut-être les embrouiller. Et il y a une confusion terrible, et malgré tout, on voit nos enfants dans les écoles, dans les Talmud Torah, qui ont envie, qui s'interrogent. Moi, j'ai énormément d'élèves que je ne connais pas, en fait, hein, qui entendent les cours et qui m'envoient des messages bouleversants. On m'a dit que vous donnez des cours, je veux les écouter, je veux en savoir davantage sur le judaïsme, je veux me rapprocher du judaïsme. Allez savoir d'où cette émotion émerge. Mais j'ai vraiment le sentiment que les enfants sont nos meilleurs garants. Et vous savez, il n'y a rien de plus touchant que de voir, on va dire, un grand-père, voire un arrière-grand-père, assis devant un roumache, devant un livre de Torah avec son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Parce que je me demande où on peut trouver un livre qui connecte à ce point les générations. Où finalement, le livre est aussi pertinent quand on a 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans ou 70 ans. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de la vie, ce livre-là peut créer le lien entre les générations. Et il me semble que, voilà, quand on démarre maintenant le mois de Nissan et on s'approche de Pessah avec ce devoir de transmission, ce devoir de dire à nos enfants, de leur raconter cette histoire, finalement, je crois qu'au moment où on leur dit ça, on leur dit « je sais que tu seras à la hauteur, je sais que tu es mon meilleur garant de la continuité et de la pérennité du peuple d'Israël ».
Vous savez, Mariacha, je pensais en vous écoutant qu'il y a un autre livre aussi qui est indémodable et qui étonne par cela. Bon, évidemment, c'est incommensurable par rapport à la Torah, mais c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes a trouvé des livres que vous connaissez mieux que moi, évidemment, et qui a trouvé des formules qui sont inoxydables, que même les plus grands poètes aujourd'hui, les plus grands littérateurs disent « mais qui a écrit un texte pareil ?» Par exemple, « il n'y a que toi qui peux transformer mon deuil en danse », c'est tellement profond comme texte que voilà, je sais pas, juste une réflexion comme ça, comme quoi vous m'avez touché, Mariacha, vous avez réussi.
Oui, bien sûr. les psaumes font partie de la Torah, et donc toute la Torah, évidemment, le Talmud hein, également, qui est la Torah orale et qui connecte les générations, c'est fabuleux. Mais rien qui me touche plus que de voir mon papa étudier avec son petit-fils.
Ah ouais.
Quand je vois, je me dis, mais c'est fabuleux ce lien entre les générations. Et ils sont amenés dans des réflexions de Gemara qui les envahit, qui les saisit. C'est extraordinaire, c'est magnifique.
Donc votre papa étudie avec son garant.
Avec un des garants.
Maria Chadresse, je vous remercie. Shabbat Shalom, bonsoir à vous.
Merci
Shabbat
à vous, shalom. Bernard. Shabbat Shalom.
Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha. Okay. Et nous sommes en ligne avec le Rav David Abendanan. Bonsoir Rav Abendanan.
Bonsoir Bernard.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et je ne sais pas d'ailleurs, puisque vous êtes le monsieur halakha de Radio Shalom, on peut déjà dire Chag Sameach ou non, parce qu'il ne faut pas non plus...
On va commencer par dire Shabbat Shalom.
Tu vois. Alors on commence par dire Shabbat Shalom. Alors justement, dans les libertés que se prennent les gens, alors c'est devenu la grande mode maintenant de manger des pâtes, de manger de la pizza cachée à l'épaisseur. Grosse discussion tous les ans, est-ce que c'est permis ou pas? Alors, permis, vous allez me dire, bah oui, c'est permis, mais ça ne sera pas ma question. est-ce que c'est trahir la fête ?
Alors, une fois n'est pas coutume, Bernard, je voudrais votre avis avant de répondre.
Moi, j'aime pas. Alors, je vais même. Vous voulez mon avis ? Mais là, ça sera un oui, avis bien. De journaliste. Hein. Allez. Je trouve que c'est toute la société qui part en cacahuète. Je trouve que c'est totalement abusé la façon dont on fait les souffle-gagnottes. Je trouve qu'on a perdu toute authenticité. Il y a un abus, c'est devenu un objet de consommation. Moi, franchement, depuis longtemps déjà, je mange de temps en temps des fausses crevettes. Parce que je sais pas, je trouve ça sympathique, ça me fait sourire. Mais la façon dont ça s'est devenu industrialisé, et donc maintenant, on en est vraiment... Vous voulez que je vous dise un truc ? Ça fait 3 mois que je mange pas de pâtes, peut-être, de pizza. Des pâtes, j'en ai mangé, pas de pizza. Il va falloir que je cherche forcément à les manger pendant Pessah. Je trouve que c'est devenu complètement dingue.
J'entends votre point de vue. Maintenant, pour recentrer le débat et d'un point de vue halakhique, eh bien, je vais vous dire qu'en réalité, c'est bien au contraire. Bien au contraire, ça veut dire que à Pessah, il n'y a pas d'interdiction de manger des pâtes, il n'y a pas d'interdiction de manger de la pizza, il y a une interdiction de consommer du chametz. Interdiction de consommer un aliment issu d'une fabrication avec les 5 céréales, farine de blé, orge, avoine, seigle, épeautre, qui a fermenté. Du moment que ça ne rentre pas dans le cadre du chametz, eh bien, c'est complètement autorisé pendant Pessah. Et qui a décidé que l'état d'esprit de Pessah était un état d'esprit de privation ou que l'état d'esprit de Pessah était un état d'esprit où la fête devait ressembler à un certain standard ou à, un certain comportement de privation? Absolument pas. Il y a des critères. Du moment que les critères...
Alors, je vous rassure, même en faisant bien Pessah à l'ancienne, comme c'était chez moi quand j'étais petit... Le seul mot qui m'est pas venu à l'esprit, c'est qu'on se prive.
Alors, j'ai bien compris. Mais il vous vient quand même à l'esprit, l'état d'esprit, de dire qu'il ne doit pas y avoir certains aliments.
Ouais, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller manger des pizzas à Pessah, franchement.
Alors, en réalité, au niveau halakhique, ce n'est absolument pas trahir l'état d'esprit de la fête, bien entendu, si tant est qu'il y ait une surveillance rabbinique sérieuse dessus et que ces aliments ont été fabriqués à partir de produits qui ne sont pas hametz. Si c'est le cas... Moi, je ne connais qu'un seul état d'esprit de la fête, c'est celui qui est imposé par le Shulchan Aruch, par la Halakha. Du moment qu'on reste dans les clous de ce que la Halakha autorise, eh bien, nous sommes à 100% dans l'état d'esprit de la fête. Et vous savez, notre religion a l'avantage d'être intemporelle, d'avoir réussi à traverser les siècles et les générations et de rester actuelle tout le temps. Et donc, du moment qu'on reste dans les canons, dans les principes que pose la Halakha, bien au contraire, il faut accepter de vivre avec son temps et il faut accepter de vivre. Pourquoi forcément se bloquer et vivre comme il vivait à l'époque ? Et on peut vivre comme on vit aujourd'hui du moment qu'on respecte scrupuleusement les recommandations de la Halakha.
D'accord, alors on va rester dans ce qui énerve. Est-ce que franchement, il y a besoin de déplacer tous les meubles à la maison pour trouver du Hamas ? De toute façon, je sais qu'il n'y en a pas. Encore que, vous allez me dire, faites attention Bernard, on a plein de cas, ça je peux l'entendre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de chercher de cette manière-là, un peu frénétique, comme on dit, les gens frottent les murs, hein ? Est-ce que c'est nécessaire, ça ?
J'ai allé même plus loin, Bernard. Dans la question que vous pourriez poser, c'est imaginons que je sais pertinemment qu'il y a du chametz derrière une armoire. Je le sais, parce que je sais que c'est tombé pendant l'année là-bas du chametz, qu'il y a un paquet de bisli qui est tombé derrière une armoire. Est-ce que j'ai l'obligation, avant Pessah, de déplacer cette armoire ? Alors, n'importe quelle maman ou papa juif vous dira... Bien entendu, je dois la déplacer. La halakha, ce n'est pas ça. La halakha, c'est qu'à Pessah, je dois d'un côté annuler tout le chametz qui est en ma possession, mais que ce n'est pas suffisant, puisque Chachamim, nos sages, ont eu peur. Je l'annule, mais si j'en viens à retrouver du chametz pendant Pessah, ils ont eu peur que je vienne à le manger, puisque le chametz, toute l'année, il est autorisé à la consommation. Par conséquent, ils nous ont demandé d'éliminer ou de supprimer tout chametz que je pourrais être amené à consommer pendant la fête. Du coup, lorsque du chametz se trouve derrière une armoire, lorsque du chametz se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible, il n'y a pas d'obligation des chachamim d'aller et de le chercher. Donc si je sais que cette armoire, elle ne bouge pas, que ce fauteuil ne bouge pas et qu'il ne risque pas de bouger pendant l'année, je n'ai pas à le déplacer pour aller récupérer le chametz qui se trouverait là-bas. Et même, je supprime l'emploi du conditionnel, même le chametz qui se trouve là-bas, puisque celui-ci, je l'ai annulé, et celui-ci, je ne vais pas le rencontrer durant la fête.
Mais alors, ça pose aussi la question de savoir si on peut tout vendre, ou, enfin, je sais pas, comment on fait, comment on fait, en fait ?
Alors, par rapport à la vente du chametz, donc il est bien connu qu'on a pris l'habitude de vendre le chametz qui est en notre possession à un non-juif, le non-juif ayant le droit de posséder ce chametz, du coup, cette pirouette nous permet de ne pas posséder du chametz à la maison. Alors, il faut savoir qu'à la base, la vente du chametz était quelque chose qui avait été institué pour les commerçants qui possèdent de grandes quantités de chametz et pour qui le fait de se débarrasser de leur chametz représenterait une perte importante, eh bien pour eux, nos maîtres ont trouvé la solution de vendre ce Hametz à un non-juif, de le laisser en dépôt chez nous, et puis de le racheter à l'issue de la fête. Cette technique aujourd'hui s'est répandue, et on a pris l'habitude de tout le monde faire une vente du Hametz. Mais là, il va falloir faire la distinction. Si on a à la maison du vrai Hametz, quand je dis du vrai Hametz, ça veut dire des pâtes, du pain, et qu'on a, on a pour une petite somme, quelque chose qui ne représente pas grand-chose, et qu'on peut s'en débarrasser complètement et racheter du Hametz après la fête, c'est l'idéal. En revanche, quelqu'un qui aurait des réserves et pour qui ça représenterait, ou alors quelqu'un pour qui ça représenterait une perte importante, ou alors une situation comme celle de l'année dernière, où nous ne savions pas est-ce qu'à la sortie de la fête, on trouverait encore des pâtes dans les rayons. Dans toutes ces situations-là, on peut s'appuyer sur la vente du Hametz, ou alors oui, un commerçant aussi, bien entendu, puisque c'est à la base...
Ouais, justement, en vous écoutant, je me disais le bureau, là où je travaille. Je ne mets pas de mezouza si je veux. Est-ce que je suis obligé de laver tout?
Alors, on y arrive, on y arrive. Un commerçant qui a de grandes quantités, il vend son Hametz. Maintenant, un bureau. Donc un bureau, donc on ne parle pas d'un commerçant, on parle de quelqu'un qui travaille. A de petites quantités de Hametz dans son bureau. Là, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle va travailler pendant Chol HaMoed, donc elle va se rendre dans son bureau pendant Chol HaMoed, auquel cas, étant donné qu'elle va y aller, et que halakhiquement, la notion de propriété morale, de personne morale n'existe pas vraiment, donc ça s'appelle que ses bureaux sont à lui, eh bien il va falloir faire une bdikat Hametz dans les bureaux. Il va falloir faire en sorte que je ne rencontre pas du Hametz pendant Pessah. Et je ne peux pas vendre complètement les bureaux si je compte m'y rendre pendant la fête. Alors que si je ne compte pas m'y rendre pendant la fête, eh bien je peux, effectivement, dans ma vente du Hametz, inclure mes locaux professionnels que je ne compte pas ouvrir. Mais attention, si je les vends, je ne m'y rends pas pendant Pessah, puisqu'il ne faut pas que je croise, que je rencontre mon Hametz pendant Pessah. Donc c'est un choix à faire. Je ne sais pas si les locaux de Radio Shalom seront ouverts pendant Pessah, mais
ils seront ouverts, grâce à Dieu.
Eh bien, donc
et en plus, avec le confinement, on doit absolument être là.
Donc, vous ne pouvez pas vendre les locaux de Radio Shalom. Il faudra faire bdikat Hametz. Et je vous invite même le soir de bdikat Hametz, avec votre bougie et votre plume, à vous rendre dans les locaux de Radio Shalom pour faire la bdikat.
Oh, ah ouais. Alors, dernière question, qui touche aussi un peu à l'idée de goût du jour, si je puis me permettre. Mais je vais rester très old school et vous dire que manger de la matzah shmoura pendant 7 jours, moi, en fait, on m'a appris ça tard. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux entendre que c'est pas nécessaire. Excusez-moi si je vous choque, hein. Je sais que vous êtes un rave pour qui,
non,
par définition.
Non, vous ne me choquez absolument pas.
Alors, non, non. Franchement, moi, bon, voilà, j'ai appris. Non, mais attends, pour le CDR, mieux vaut de la matzah shmoura, je comprends très bien, et même ça me plaît beaucoup. Et après, si je vais manger des matzot, par exemple, je vais même citer une marque de chez Eman, que rue Pavée, on m'a appris que c'était des matzot qui étaient très bien. Pourquoi tout d'un coup, il y a une nouvelle mode depuis je ne sais pas combien d'années? Non, non, il faut manger que matzah shmoura, très cher, très sec et très indigeste pendant 7 jours. Bon, bah, je ne sais pas, j'entends ça, mais franchement, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que je ne veux pas le donner. Alors, le mien.
Tout d'abord, avant de donner mon avis, je vais expliquer qu'est-ce que la matzah shmoura. La matzah shmoura, c'est de la matzah dont, qui a bénéficié, en fait, on va dire, qui est ultra surveillée. La farine a bénéficié d'une surveillance depuis le moment de la récolte, une surveillance ultra, ultra proche. Et à part ça, la matzah shmoura, c'est une matzah qui a été faite, l'échem matzat mitzvah, pour pouvoir servir de mitzvah le soir du seder. Alors, est-on obligé de consommer de la matzah shmoura, ces fameuses matzot avec, issues de cette farine durant tout Pessah? La réponse est non. Certains sont marmirim, certains veulent faire la mitzvah du mieux possible et sont marmirim de le faire, mais ce n'est absolument pas une exigence halakhique. En revanche, pour le soir de Pessah, pour le seder de Pessah, pour accomplir la mitzvah de consommer de la matzah le soir de Pessah, là, il faut utiliser de la matzah shmoura. Donc là, on a cette recours à cette matzah qui est chère, qui est peu digeste, mais qui... Et la matzah qui a été faite, souvent, vous savez, les matzot rondes de forme un peu irrégulière qui ont été faites à la main, les shem matzat mitzvah pour la matzah de la mitzvah. Et là, il y a une obligation d'utiliser cette matzah-là. Mais tout le reste de Pessah, vous pouvez utiliser de la matzah non shmoura. Certaines personnes sont marmirim, certaines personnes veulent faire le mieux, le plus, mais ce n'est pas la halakha, ce n'est pas l'obligation. On peut manger toutes les matzot kasher et Pessah durant Pessah.
Eh ben, magnifique. Rav David Abendanan, merci pour ces explications. On a envie de relancer. J'aimerais savoir, par exemple, le pain, il doit être plein si je fais un kidouche pendant l'année. Pourquoi la matzah, elle peut être cassée?
Mais Bernard, vous savez très bien que le soir de Pessah, on utilise combien de matzot?
Trois.
Il y en a une qu'on casse et il y en a deux qui restent entières. Est-ce que vous savez à quoi sert justement la troisième? Eh bien, elle sert justement à avoir deux pains pleins, deux pains entiers. Alors, pourquoi on en casse une? On en casse une parce que la matzah, c'est le pain de pauvre, le lechem oni, et darko shel ani biproussa, le pauvre a l'habitude d'avoir des pains non entiers, des pains cassés, donc en ayant deux matzot entières et une matzah cassée, on accomplit et la mitzvah de lechem mishne, d'avoir deux pains, donc deux matzot entières, et la mitzvah de lechem oni, du pain de pauvre, parce qu'on a aussi un morceau de pain qui est cassé. Et du coup, on a et les deux pains entiers et le pain cassé.
Alors, j'aurais envie de vous relancer encore une fois parce que c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, mais si vous voulez, on fera la semaine prochaine. Parce que moi, je voulais parler de la de celle des deux qu'on utilise comme si c'était des chalotes. Mais on voit bien qu'elle est fendue, par exemple. Et si j'avais la même chose sur une chala, n'étant pas rave, je dirais non, viens, on va la ranger, puis on va essayer d'en trouver une autre. Alors que là, apparemment, elles sont dans les boîtes de trois. Et elle est cassée puisqu'elle est fendue.
Alors, vous parlez du côté technique que les matzot faites à la main se fendent plus facilement. Alors, effectivement, mais en fait, le principe, c'est qu'une fois qu'elle est fendue, si elle reste entière, si elle reste chalem, elle a toujours le titre de matzah entière. Comme un pain qui serait un peu fendu, vous ne vous en rendriez pas compte. Mais du moment qu'il est chalem, du moment qu'il est entier, on peut accomplir la mitzvah avec. Donc, c'est pour ça que ces matzot qui ont l'air peut-être un peu moins belles, eh bien, en réalité, c'est avec elles qu'on accomplit la mitzvah le soir de Pessah. Et il n'y a aucun problème, même si elle est fendue, ça ne pose pas de souci à l'arik.
Rav David Abendanan, merci. Chaque semaine avec vous, 5 minutes, une halakha. On a un peu débordé ce soir, mais on a beaucoup appris. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Merci Bernard, Shabbat Shalom.